Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Bonjour Violaine.
Bonjour Fabrice.
Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission, comme tous nos auditeurs, la nutrition et vous. Comment ça se passe cette semaine? Je vais essayer de pas vous poser trop de questions parce que autant sur le live c'est bien, autant en podcast il y a des gens qui m'ont dit oui, mais il faut passer directement dans le vif du sujet là.
Ah bah oui, bah oui, bah oui. Mais écoutez, non, mais ça va bien, ça va bien. On a eu quelques problèmes pour se connecter, mais ça va. Et
c'est,
vous?
C'est pour vous faire monter un pic d'adrénaline là, de hop,
oh bah oui,
juste avant d'aller à l'antenne. Non, moi ça va, d'autant que aujourd'hui vous allez parler peut-être de ce qui est mon aliment préféré. Allez, on va le dire comme ça.
Ah, je ne savais pas.
Ah bah oui.
Moi c'est... aussi j'aime beaucoup. Effectivement, on va parler du miel aujourd'hui, mais du miel sous son angle in and out, à savoir son usage externe, son usage interne, donc par la voie orale ou sur la peau. Parce que lorsqu'on a fait la chronique la dernière fois, Fabrice, sur les grogs, les vins chauds et les laits de poule, j'ai évoqué les propriétés antibactériennes du miel. Et puis, ça a suggéré quelques questions de la part des auditeurs. Donc, j'avais envie de revenir sur ce point et d'aller plus en détail sur l'intérêt du miel par rapport aux bactéries, à la cicatrisation, etc. Donc, voilà, c'est le sujet du jour.
Bien, et alors l'autre sujet du jour, mesdames, messieurs, vous allez apprendre quelque chose peut-être comme moi, puisqu'en parlant, Violaine, elle me dit, bon voilà, le miel in and out, et je lui dis, mais c'est cool, elle me dit, mais non, mais attention, il y a la loi tout bon, et donc on est obligé de traduire les trucs, mais qu'est-ce que c'est que cette loi tout bon? Donc, il faut que quand on fait un anglicisme, qu'on le traduise, hein, donc
oui, c'est externe, interne,
ou alors voilà. On pourrait dire dedans, dehors, hein.
Dedans, dehors, ça c'est pas mal.
Je vais le faire avec l'accent du nord, pour ce sera moins sexy. Le miel in and out, ça c'est le côté anglais, un peu sexy, un peu glamour. Et puis il y a la version dedans, dehors.
Complètement. Non mais les deux sont sympas en
c'est
fait.
Pas
mais
même, oui, c'est pas le même effet, mais bon, c'est la même chose en réalité, mesdames, messieurs. Donc dès qu'on va, voilà. Alors j'ai vérifié entre temps quand même, il semble que c'est lié à quand on cite une marque en réalité. Je crois, mais bon, on va pas prendre, on va pas.
À vérifier la loi tout bon. À vérifier.
Je suis contrarié. Dès que je suis contrarié, maintenant, je fais une aromathérapie, ma petite huile essentielle de lavande vraie. Ah, oh. Ok. Ah, ça va mieux. Allez, in and out, dedans, dehors. On va parler du miel. Sur toutes ses vertus. Alors, il y a plein de choses à dire sur le miel. Vous voulez commencer par quoi? Parce que le miel, c'est vaste.
Eh bien, je vais d'abord faire un petit peu de rappel sur qu'est-ce le miel, comment il est fabriqué et pourquoi sa fabrication, son origine, etc. va impacter ses propriétés antibactériennes. Parce que Fabrice, aujourd'hui, on parle surtout des propriétés antibactériennes et cicatrisantes du miel, parce qu'effectivement, il a tellement de vertus qu'il faudrait au moins 4 chroniques pour toutes les passer en revue. Alors, si on commence sur l'origine du miel, alors bien évidemment, vous savez tous hein, que le miel est fabriqué par des abeilles, mais de manière plus précise, hein, le miel, il vient d'une fabrication qui est faite à partir des nectars de fleurs, voire du miella. Alors, juste quelques petits chiffres qui m'ont paru tout à fait intéressants et tellement magiques. Vous savez, Fabrice, à peu près, enfin, quand on a une colonie de 40 000 abeilles, elles sont capables d'aller butiner 21 millions de fleurs par jour. C'est-à-dire qu'il y a 700 fleurs par jour, par abeille, qui sont butinées pour aller récolter soit le nectar, le pollen, bien évidemment, le miella, etc., etc. Donc, c'est des chiffres un peu magiques qui vont montrer la force de travail de ces abeilles-là. Et généralement, donc, ce sont les abeilles mellifères, donc Apis mellifera, qui s'occupent de la production du miel. Il y a à peu près 20 000 espèces dans le monde d'abeilles et il faut savoir qu'il y en a très peu qui peuvent produire du miel. Donc, c'est à noter. Alors, après, quand on parle de la fabrication du miel, alors, je vais pas vous refaire un cours de biologie, mais c'est tout à fait passionnant de se rendre compte que les abeilles, ben, finalement, donc, elles vont butiner les fleurs, elles vont récolter le nectar. Le nectar, c'est une exsudation sucrée, hein, qui est composée à 90% de sucre. Elles peuvent aussi aller butiner le miella. Alors, le miella, c'est un peu moins sexy parce que finalement, ça correspond aux excréments liquides, principalement des pucerons, qui est aussi une substance très sucrée. Et donc, les abeilles, elles vont récolter le nectar ou le miella et puis elles vont le transformer. Alors, comment elles le transforment? Ben, vous avez une abeille, elle a un jabot. Et bien, dès lors qu'elle va butiner la fleur, il faut savoir que le nectar va commencer à subir une transformation enzymatique. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi cette transformation enzymatique, elle est importante pour les propriétés antiseptiques du miel. Dans tous les cas, elle va commencer à transformer le nectar et le miella dans son jabot, et puis lorsqu'elle va arriver à la ruche, elle va passer le relais à une abeille ouvrière d'intérieur qui, elle, va récolter le liquide. Et d'abeille en abeille, elles vont se le passer, se le transférer, et chacune va le digérer, le malaxer, etc., etc. Et d'individu en individu, vous avez un miel qui va perdre beaucoup de teneur en eau, enfin sa teneur en eau va diminuer, et vous avez au contraire une augmentation des enzymes qu'il contient, des sucs gastriques de l'abeille, etc., etc. C'est pour ça qu'on dit qu'un miel est une denrée alimentaire d'origine animale. Avec tout ce qui s'ensuit au niveau réglementaire, mais là n'est pas la question. Donc, le miel est un produit d'origine animale. Et juste aussi d'autres chiffres un peu magiques, il faut savoir que en 5 jours, les abeilles sont capables de faire diminuer la teneur en eau de ce futur miel de 50% à 18%, et ça, c'est lié à 2 choses. D'une part, la chaleur qui fait dans la ruche, hein, qui permet d'évaporer l'eau de ce produit. Et d'autre part, vous avez des abeilles ventileuses qui, par battement d'ailes, crée des courants d'air dans la ruche qui vient déshydrater ce liquide qui va devenir du miel une fois qu'il est mis dans les alvéoles de cire. Alors, tout ce travail que font les abeilles, toutes bien coordonnées entre elles, ça a un impact direct par rapport à la qualité du miel que vous allez obtenir. Et quand je dis qualité, ici, je vais parler de qualité presque thérapeutique, antibactérienne, antiseptique. C'est lié aux abeilles, c'est lié au travail qu'elles font, c'est lié aussi aux espèces végétales qui vont être butinées, puisque vous savez, il y a des miels monofloraux qui viennent d'une seule espèce, comme du miel de thym dont je vais reparler, du miel de lavande, du miel de manuka, et puis vous avez des miels toutes fleurs qui viennent de différentes espèces. Alors le miel, une fois qu'on le récolte, qu'on l'a obtenu, il faut savoir qu'il a à peu près 80% de sucre, hein, enfin de saccharose sous forme de glucose, enfin du glucose et des polysaccharides, et 18% d'eau. Ça, c'est des critères qui sont extrêmement importants parce que plus un miel est pauvre en eau, plus il va être, je dirais, propice à une action thérapeutique antiseptique et pour soigner les plaies. Alors le miel, du coup, pour venir à ses propriétés antiseptiques, lorsque la dernière fois je vous ai dit qu'un grog qui contenait du miel allait participer à soigner les maux de la gorge, à supprimer, on va dire, les bactéries, à aseptiser, etc., j'ai évoqué plusieurs choses, et là aujourd'hui je voudrais vraiment rentrer dans le détail, Fabrice, parce que c'est juste complètement dingue ce que contient le miel. Vous avez 6 raisons pour lesquelles un miel est antiseptique et 6 raisons qui vont expliquer pourquoi un miel est largement utilisé en milieu hospitalier pour, par exemple, cicatriser des brûlures superficielles, voire cicatriser des plaies qui peuvent être chroniques comme des ulcères de jambes, etc. Donc c'est bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites au niveau de la littérature scientifique, beaucoup d'études en cours, mais le miel médical, c'est une vraie réalité. Hein. N'imaginez pas que je suis en train de proposer un remède de grand-mère. Dans le secteur hospitalier, vous avez beaucoup de miel utilisé, vous savez, dans des pansements faits avec de la gaze, du tulle, pour nettoyer les plaies et surtout pour les désinfecter et aider à la cicatrisation. Bien. Alors Fabrice.
Alors Violaine.
J'allais arriver à mes 6 paramètres qui justifient l'action antibactérienne du miel.
Vous savez que de toutes les personnes que je dois interrompre, je crois que vous êtes la plus compliquée parce que j'essaie de placer un truc et je sais que c'est ça va être difficile mais 6 raisons pour laquelle le miel est un excellent antiseptique et doit être ou est utilisé dans le milieu hospitalier. C'est dans un instant, quand vous pensiez tout savoir sur le miel, c'est pour ça que les chroniques et les émissions de Violaine, c'est jamais anodin, on se dit bah tiens, ça je connais, et finalement on écoute, on dit ah c'est intéressant.
Et oui.
Je vous invite à rester avec nous car on revient dans un instant juste après ceci.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Violaine Chaumont sur Nutri Radio. La suite de cette émission consacrée au miel, et je suis déjà en train de stresser, en train de me dire mais comment je vais l'interrompre dans la prochaine pause.
Non, mais j'essaye de sentir les choses, j'essaye d'être professionnel, mais c'est vrai que peut-être un peu scolaire parfois.
Mais oui, mais vous vous embarquez, et vous avez raison, vous laissez aller par ce sujet qui est passionnant aujourd'hui, le miel, et comme je le disais avant la pause, on croit tout connaître, et puis là on découvre, par exemple, que c'est un excellent antiseptique, mais en milieu hospitalier, que c'est pas un remède de grand-mère, qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles on l'utilise à ce titre-là, et vous alliez nous en donner au moins 6.
Au moins 6, oui, et de manière assez vulgarisée pour pas ennuyer les auditeurs et que ce soit largement compris. Donc effectivement, le miel médical, c'est une réalité. Aujourd'hui, les études montrent qu'entre la tradition d'utilisation et les méthodes scientifiques d'aujourd'hui, on arrive à prouver les propriétés antibactériennes du miel. Alors la première raison, c'est l'osmolarité. Alors c'est un mot un peu barbare, mais je vous avais expliqué la dernière fois que c'était lié à la concentration du sucre. Quand vous avez un produit qui est très composé, très riche en sucre, et que vous le mettez dans un milieu ou à côté d'un un milieu qui n'en contient pas beaucoup, bah vous allez avoir des systèmes d'appel d'eau, des transferts d'eau, ça va appeler l'eau. Et ce qui est important, c'est que l'osmolarité du sucre est très du miel est très importante du fait du sucre. Et lorsque le miel est mis au contact de germes, par exemple, eh ben le miel va attirer l'eau qui était à la base disponible pour les germes, les bactéries, etc. Et elle va comme les dessécher, les déshydrater. Donc du coup, les germes n'ont pas assez d'eau pour se maintenir en vie. Et c'est la raison pour laquelle le miel a ce côté antibactérien. Ensuite, je tiens quand même à le dire, hein, c'est le miel qui est très riche en sucre, qui a cet effet osmotique, qui va dessécher les germes. Si vous mettez du sirop d'agave ou du sucre canne sur votre plaie ou à consommer comme ça, n'aurait pas du tout le même effet. Hein. Alors, tout n'a pas encore été étudié sur les raisons de pourquoi c'est le miel et sa teneur en sucre qui fonctionne au niveau des bactéries. Mais dans tous les cas, c'est le miel qui fonctionne grâce à son osmolarité vis-à-vis des bactéries. Vous avez une deuxième raison qui justifie que le miel limite la croissance des bactéries, c'est tout simplement que son pH est très acide, aux alentours de 3,5, ce qui fait que ça ralentit et ça évite la croissance de certaines espèces bactériennes, ce qui est tout à fait intéressant quand vous avez une infection, qu'elle soit topique sur la peau ou au fond de la gorge. Ensuite, la dernière fois, je vous avais évoqué la troisième raison qui était l'eau oxygénée. Alors, j'ai eu des commentaires en me disant mais c'est quoi cette histoire que le miel contient de l'eau oxygénée? Eh bien oui, le miel contient de l'eau oxygénée, Fabrice. Et ça vient de quoi? Bah, c'est l'abeille qui fabrique ça. Quand elle va butiner le nectar, elle contient des enzymes, l'abeille, dans son jabot, une enzyme qui s'appelle la glucose oxydase. Et bien sachez qu'elle va dégrader l'eau et le glucose en eau oxygénée, qui va donc, comme vous le savez, avoir un côté nettoyant, puisque quand vous vous mettez l'eau oxygénée sur une plaie, ça fait des petites bulles. Hein. Donc on dit que ça vient nettoyer les plaies. Et en plus, elle va générer aussi cette réaction chimique de l'acide gluconique qui va permettre de baisser encore plus le pH et de limiter la croissance des bactéries. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, les études indiquent bien que lorsque vous étalez du miel sur une plaie, sur une brûlure, l'eau oxygénée va se libérer progressivement et elle a vraiment une action de nettoyage et antibactérienne intéressante. Ça a même été testé sur du staphylocoque doré. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est efficace. Quatrième raison, Fabrice, que le miel soit un vrai antibactérien, ça vient tout simplement des facteurs phytochimiques. Alors, c'est quoi un facteur chimique? Phytochimique, bah c'est par exemple de l'huile essentielle. Quand l'abeille butine des fleurs, forcément, elle va capter d'autres substances et elle peut ramener des huiles essentielles de fleurs. Et d'ailleurs, il y a eu un test qui a été fait sur différents miels en Europe. Il faut savoir que c'est le miel de thym qui est le plus antibactérien. Il contient notamment le thymol qui provient du thym, qui a une bonne efficacité contre certaines bactéries. Et donc, le miel de thym, il est beaucoup plus antibactérien que le miel de lavande et encore plus antibactérien que le miel de colza. Et souvent, dans les hôpitaux, vous pouvez avoir du miel médical d'origine thym, parce que il montre une plus grande activité antibactérienne. Cinquième raison, Fabrice, pour prouver que le miel est antibactérien et peut être utilisé lorsqu'on a une infection, c'est qu'il contient une protéine qui s'appelle la défensine 1. C'est une protéine qui est fabriquée par l'abeille, que vous allez retrouver dans le miel, mais également dans la gelée royale, et qui est comme un peptide antimicrobien qui va intervenir dans l'immunité et qui serait vraisemblablement l'un des principaux paramètres justifiant le rôle antibactérien du miel. Et enfin, une autre molécule, je vais vous donner son nom, je sais que c'est très technique, mais c'est le méthylglyoxal. C'est un aldéhyde, c'est une substance d'origine végétale qu'on va retrouver dans le miel, et principalement le miel de Manuka, et qui lui est parfaitement antibactérien. Donc voilà Fabrice, 6 raisons de justifier qu'un miel est antibactérien, qui peut être utilisé dans un but d'antiseptie, d'éviter la prolifération des bactéries. C'est la raison pour laquelle vous le trouvez en application topique en hôpital. C'est la raison pour laquelle vous trouvez aussi aujourd'hui des sirops avec du miel lorsque vous avez des syndromes ou des symptômes tels que la toux, des pathologies ORL, parce que le miel, s'il est suffisamment concentré dans le produit que vous allez prendre, eh bien, il va former un film sur le fond de votre gorge et par tous les effets que je vous ai dit, va permettre de débarrasser la muqueuse des bactéries et des germes qu'elle contient et qui l'irritent et qui l'agressent. Donc ça, c'est important. Et puis, pour venir compléter tous ces effets du miel, hein, tout ça c'est sur preuves cliniques, scientifiques. On pourra donner des études aux auditeurs qui sont intéressés et curieux. Il faut savoir que d'autres actions et d'autres modes d'action ont été identifiés pour le miel, qui justifient aussi qu'il est utilisé lorsqu'on a des plaies ou des parties des muqueuses ou des brûlures, etc., c'est qu'il intervient beaucoup dans les processus de cicatrisation. Parce qu'il va moduler la réponse inflammatoire, il va stimuler ce qu'on appelle, vous savez, les fibroblastes, c'est ce qui vient créer la peau et qui vient refaire, on va dire, l'épithélium, etc. Et il vient stimuler la synthèse de collagène. Donc, le miel, très clairement, c'est un ingrédient parfaitement intéressant, en topique, quand vous avez des plaies, des blessures, par voie orale lorsque vous avez des infections. Mais j'insiste lourdement par contre sur un point, c'est que toutes les études montrent bien des efficacités lorsque vous avez un miel qui est en contact des germes et des bactéries, comme ça peut l'être si vous avez une plaie. Lorsqu'on prend un produit par la bouche, hein, qu'on se dilue du miel dans un grog ou que l'on fait ou qu'on en achète un sirop, faut bien faire attention. Alors, c'est pas forcément toujours indiqué par les fabricants, mais il faut quand même une certaine viscosité pour que le produit ait la capacité de faire un film au fond de votre gorge et du coup d'avoir le temps d'agir. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment ajouter. Et vous allez me dire, mais quel est l'intérêt, Violaine, d'acheter des produits avec du miel si je peux utiliser mon miel chez moi? Bah, l'intérêt, il est quand même que généralement, lorsque vous achetez un produit type dispositif médical qui contient du miel, vous avez quand même beaucoup de chances que le miel ait été contrôlé de manière très poussée avant son utilisation. Le miel, bah, il est fabriqué par des abeilles, il est d'origine aussi, la matière première, ce sont les végétaux, donc vous avez des risques de pesticides, des risques de résidus médicamenteux, etc., etc. Donc, quand vous achetez un produit à base de miel avec des indications médicales, hein, là tout l'ORL, etc., ben dites-vous que le miel a quand même été sélectionné. Il y a des critères pour les miels utilisés à des fins médicales qui doivent être respectés par les apiculteurs, les laboratoires, etc., etc. Ce qui explique qu'on s'étartine pas du miel du petit déjeuner comme ça parce que on a une brûlure, etc. On peut le faire, hein, ça ne porte pas trop à conséquence sur des plaies bénignes, comme vous pouvez mettre du miel de votre tartine dans votre grog, hein, Fabrice. Mais sachez que les produits que vous achetez dans le commerce, qui peuvent paraître chers et puis un peu trop, on va dire, alambiqués, il y a quand même un contrôle qualité du miel qui est important à faire, puisqu'il peut être vecteur d'un certain nombre de substances indésirables. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous préciser, Fabrice.
Bien. Est-ce que vous allez nous donner différents types de miel si on marque une pause ou vous voulez terminer?
Alors, je peux revenir sur les différents types de miel. On l'a un petit peu évoqué.
Parce que là, donc, Violaine, oui. C'était simplement parce que soit je fais une pause parce qu'il y a encore une autre partie après, soit vous me dites, non, Fabrice, là, c'est bon. Et du coup, on peut un petit peu.
Moi, ça serait tout bon. Je peux juste refaire une conclusion si vous avez un peu de temps. Mais sinon, si les auditeurs ont assez pour comprendre les propriétés antiseptiques du miel, ça me va.
Vous pouvez faire une conclusion parce que je pense que voilà, encore une fois, c'est hyper intéressant.
Je vais faire une conclusion.
Voilà. Allez-y. Voilà. Je vous en prie. J'ose plus vous interrompre.
J'y vais tout de suite.
Mais oui, parce que je vais pas faire une pause pour retrouver une conclusion de 2 minutes quand même. On va pas ménager le suspense à ce point-là.
Oh, on est pas bien calé aujourd'hui.
Non, mais d'ailleurs, juste, Violaine, l'avantage que vous veniez au studio, c'est ça. Parce que là, on est en distanciel, on est, comme vous dites, je vois pas, je sens pas. Voilà. Mais en tout cas, j'ai bien appris que le miel, et c'est vrai qu'on n'y pensait pas. Alors moi, ma vision un peu de profane et d'extérieur, imaginez à l'époque, il y a quelques années, mettre du miel sur, à part ceux qui étaient des initiés, mais mettre du miel sur une blessure, on n'y pensait pas. Et en réalité, ben voilà, maintenant,
Il y a un vrai intérêt, effectivement. Et pour conclure, Fabrice, donc si vous voulez utiliser du miel à visée antiseptique, antibactérienne, privilégiez le miel de thym. Alors, je lisais une anecdote dans une revue scientifique sur le fait qu'en, c'était dans les années 2013-2015, le CHU de Limoges avait sélectionné le miel de thym comme antiseptique privilégié pour soigner les plaies superficielles, les brûlures, s'il y avait des plaies à cause des cathéters, etc., etc., parce que c'est l'un des thyms les plus efficaces. Souvent, il y a des pénuries, par contre, sur ce type de miel monofloraux. Donc après, il s'était rabattu sur le miel de lavande, qui propose aussi, enfin, qui a aussi des propriétés tout aussi intéressantes sur les différents germes, Escherichia coli, le staphylocoque doré, etc., etc. Donc voilà, si vous prenez pas du thym, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez utiliser aussi du miel de lavande. Et ce que je voulais rajouter aussi derrière, c'est que le miel de Manuka, dont on entend beaucoup parler, il y a une vraie réalité sur son rôle antibactérien. Si vous avez la chance d'en trouver et de pouvoir vous l'acheter, parce que c'est quand même un miel qui coûte cher, sachez que c'est celui qui contient le plus de cette substance dont je vous parlais, le méthylglyoxal, qui est vraiment avec un pouvoir antiseptique et antibactérien extrêmement important. Donc voilà.
Et voilà.
Miel de thym, miel de lavande. Et si vous avez la chance et de l'argent, le miel de manuka peut aussi être utile.
Ou la chance d'avoir de l'argent. Voilà.
Ou la chance d'avoir de l'argent. Je ne sais pas si c'est de la chance d'avoir de l'argent, mais dans tous les cas, d'avoir du miel de manuka, oui.
Et très bien. Et on aussi, même si tout le monde le sait, que voilà, moi je ne savais pas il y a pas si longtemps que ça, je n'étais pas au courant de ça, que ça se conservait de manière infinie, le miel. Il n'y a pas de date de péremption pour le miel.
Non, il n'y a pas de date de péremption. Conservez-le à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur, fermez-le bien. Le développement bactérien dans un miel, c'est quand même assez rare, hein, vu la quantité de sucre, la faible disponibilité de l'eau, donc ne craignez pas trop la péremption, mais vraiment préservez-le de la lumière, de la chaleur, des variations de température.
Et quand on s'en sert aussi avec une cuillère à bois, pas en métal, pour pas oxyder.
Bah oui, on peut faire ça, puis surtout, on met pas la cuillère dans la bouche avant.
Voilà. Ah, ça, non, ça, c'est plus dur. Alors, ça, c'est plus dur. Moi, je mets le doigt dans le miel, et hop, dans le miel, le doigt dans la bouche.
Ah, bah oui,
évidemment,
j'imagine bien.
On prend toutes les précautions possibles, mais c'est comme ça aussi que c'est bon. C'est la vie, mais oui, la vie, c'est bon aussi pour ça. On s'est fait prendre les mains dans le pot de miel. Voilà.
Exactement. Bah, la vie, c'est des bactéries, hein, de toute façon. Hein.
Nous sommes une grosse bactérie. Vous êtes une grosse bactérie, et moi aussi. Vous êtes tous des gros bactériens.
Cette chronique finit bizarrement.
Nous sommes bactéries et on rit en tout cas avec vous. Je crois qu'allez, on termine.
Allez, il faut terminer là.
On termine. Bah oui, parce qu'après on va nous inviter aux grosses têtes. Allez, c'est pas le but. Rendez-vous la semaine prochaine avec vous. Donc en studio, Violaine, on sera très content de vous accueillir. En particulier JP, qui vous aime beaucoup. Et donc, on retrouve cette émission également à la fin de la semaine en podcast. Si vous avez loupé tout ou partie, rendez-vous sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. À la semaine prochaine, Violaine.
Merci, Fabrice.
Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.